n'ai jamais joué rugby dans ta vie. Ferme ta gueule.
Bonjour à vous. Bienvenue dans ce troisième numéro de 15 bras, 15 jambes, consacré à la fin de la Coupe du Monde de rugby. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, les matchs de poule ont été détaillés dans deux épisodes hors série que vous retrouverez sur les flux RSS et sur PodCloud. Pour ce numéro, donc, je vais revenir sur les matchs de phase finale et je vais refaire des petits rappels aussi sur la Coupe du Monde. Je me consacrerai aussi à tout ce qui est top 14, Pro D2, les championnats domestiques comme la première chip. Et je vais introduire aussi une toute nouvelle rubrique, mais ça, je vous laisse la surprise un petit peu plus tard. Je pense qu'on va... Eh bien, commençons de suite, hein.
Ou quoi ? On est en bas de qui ? En bas de qui ? Alors t'as 2-3 mecs de la pirogue qui arrivent des îles. Alors eux, ils te font des percées de 500 mètres. Ils font le tour du parking et ils reviennent. Personne ne peut les attraper.
Eh bien, pour se mettre en jambe, on va faire un petit rappel sur les poules de la Coupe du Monde. Donc, poule A, on a eu premier l'Australie avec 4 victoires, 17 points. Le Pays de Galles avec 13 points, 3 victoires. L'Angleterre avec 2 victoires, 11 points. Les Fidji, une seule victoire, 5 points. Et l'Uruguay, 0 victoire. Donc je rappellerai que pour la Coupe du Monde de 2019, les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés automatiquement pour la Coupe du Monde suivante qui se passera donc en 2019 au Japon. Donc ici, les qualifiés sont donc Australie, Galles, Angleterre. Je vous rappelle aussi qu'il y a un petit document qui vient en complément de ce podcast et qui vous permet d'en voir les scores. Je note tout dessus, vous verrez, c'est peut-être un petit peu plus propre. Poule B, Afrique du Sud, 3 victoires, 16 points. Écosse, 3 victoires, 14 points. Fait assez exceptionnel. Japon, 3 victoires, 12 points, voilà, qui n'a pas été qualifié pour l'écart malgré 3 victoires. Je crois que c'est une première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que ça arrive. Les Samoa, une victoire, 6 points. Et les États-Unis, 0 victoire, 0 points. Après, poule C, donc la Nouvelle-Zélande, 4 victoires, 19 points. Plus gros quota de points de la Coupe du Monde pour les poules. L'Argentine, 3 victoires, 15 points. Géorgie, 2 victoires, 8 points. Les Tonga, une victoire, 6 points. Et la Namibie, 0 victoire, 1 point. Pour la poule D, nous avons Irlande, 18 points, avec 4 victoires. France, 3 victoires, 14 points. Italie, 2 victoires, 10 points. Roumanie, 1 victoire, 4 points. Et Canada, 2 points. Pas de victoire à leur actif. Je garde le compte rendu du final de la Coupe du Monde pour un petit peu plus tard, donc on vous passe directement au quart de finale. Donc on a eu le quart de finale, quart de finale, donc Australie-Écosse. Victoire australienne 35 à 34, je sors mon petit guide parce que j'ai regardé tous les matchs quasiment pour vous, et pour moi surtout, donc je vais vous lire ce que j'avais marqué. Il y a eu pas mal de pénalités jusqu'à la 30e minute, il y avait déjà 5-6 pénalités en tout. Bon, non, finalement, c'est ce qui... Comme je le dis souvent, c'est 10 pénalités grand maximum sur un match pour une équipe. C'est le quota maximum de pénalités. Après, les Écossais n'ont pris qu'un jaune aussi, un petit peu sévère sur un... une tentative d'interception qui a été interprétée comme en avant. L'arbitrage s'est voulu très bizarre entre l'Australie et l'Écosse, avec surtout un en avant repris devant un petit peu imaginaire d'un Écossais qui a valu à l'Australie d'avoir la pénalité de la gagne qui a été forcément marquée. Moi je trouve que l'arbitrage était pas tip top, mais bon, c'est un peu le retour de bâton par rapport au match des Samoa qui était là vraiment très mal arbitré en faveur des Samoa qui auraient dû pour moi gagner ce match. Mais bon, après voilà, on peut pas tout refaire. Les Écossais qui ont été quand même très costauds face à des Australiens pourtant bien meilleurs, je trouve. Mais voilà, ils ont joué le jeu pleinement, ils avaient bien lu le jeu. On a vu pas mal d'interceptions. Moi, j'ai vu des Écossais, très malins à l'image de Ledlow. Et les trois quarts écossais ont été quand même un petit peu meilleurs que les trois quarts australiens. Second match, Irlande-Argentine. Donc, victoire victoire argentine 43-20 contre les Irlandais. Après, c'était un match plutôt sympa. La première mi-temps a été plutôt... deux équipes ont été à niveau. On a vu des essais argentins, en fait, que j'ai appelé malin, entre belle circulation de balles entre les trois quarts et les avants. Les Irlandais, eux, se sont plus remis vers tout ce qui est jeu groupé, jeu vers l'extérieur rapide, un jeu qu'on voit depuis quelques années. Après, les Argentins ont fait quelques fautes con-con après la mi-temps, avec un joueur comme Herrera, le pilier de Castres, qui a fait des fautes très con et qui aurait pu lui valoir un carton rouge d'ailleurs. La victoire argentine, on sentait vraiment que les Argentins étaient au-dessus, surtout sur cette Coupe du Monde, que l'équipe a beaucoup progressé. Urquade a fait un très bon boulot, pas forcément très bien récompensé, mais pas mal. Quoi. Second match, ça va être vite expédié, Nouvelle-Zélande-France, donc l'équipe de France touche le fond. Il faut dire la vérité, l'équipe de France a tenu quoi 20-30 minutes le niveau, avant de s'écrouler complètement. J'ai vu que quelques joueurs à niveau, Picamole, Spedding, je pense à Fofana qui a fait de belles percées, mais malheureusement, personne pour le suivre. Les Néo-Zélandais ont tapé là où ça faisait mal, donc à savoir très bonne tenue de balle, bonne conduite. On n'a pas su les chahuter sur nos points forts, la mêlée, forcément quand la première mêlée du match arrive vers la 30e minute. C'est toujours un petit peu emmerdant pour faire chier l'autre en mêlée. Donc, score logique finalement, je trouve lourd, franchement, par rapport à ce que nos joueurs peuvent faire, mais logique, hein, vu ce qu'ils ont rendu sur le terrain et vu le système de jeu catastrophique qu'avait essayé de mettre en place Saint-André et son staff. Moi, je suis un petit peu dégoûté. Heureusement, les autres matchs ont relevé un peu le niveau, quoi. Et aussi, alors match très plaisant aussi, Afrique du Sud, Pays de Galles, donc 23-19, victoire sud-africaine. Alors c'était un match aussi très, que j'ai trouvé très plaisant, avec des Gallois qui ont beaucoup défendu. Il y avait déjà, alors à la 50e minute, j'ai noté, il y avait 115 plaquages déjà pour le Pays de Galles, ce qui est énorme. Alors c'était un match très intelligent. Les Gallois ont contré les Sud-Africains sur la tenue de balle parce que les Sud-Africains ont tendance à aller un petit peu trop au charbon, mais c'était franchement pas mal. Les Sud-Africains ont fait sont revenus à un jeu hyper restrictif depuis la défaite contre le Japon en poule, donc c'était jeu d'avant, et puis une fois qu'on avait resserré l'équipe adverse, jeu au pied avec des ailiers très grands et très rapides comme Petersen et Abana. Et l'Afrique du Sud finalement a mis un bel essai à la fin avec une excellente sortie de mêlée de Dwayne Vermeulen pour une petite passe dans le dos pour un essai de Dupriz. On passe maintenant aux demi-finales. Alors première demi-finale, Argentine-Australie, match que malheureusement j'ai pas vu, j'ai vu que le résumé, donc je vais faire ça très rapide. Donc victoire australienne 29-15. Sur le résumé, alors j'ai vu des deux équipes très joueuses. J'ai quand même vu des Australiens supérieurs au niveau des passes. Ils ont su trouver des intervalles avec une très bonne circulation de balles. Les essais de Ashley Cooper sont d'ailleurs le bel exemple, avec des joueurs qui ont su trouver des intervalles aussi, comme Drew Mitchell. Les Argentins ont eu plus de mal, sont tombés sur une défense australienne un peu plus, un petit peu plus costaud. Ils ont été bien contrés. A noter d'ailleurs que sur cette demi-finale, les quatre équipes sont les quatre équipes qui participent aux Four Nations, dont les équipes nationales du Sud. Au niveau d'ailleurs. Et après, donc le second match, je l'ai vu, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Ah, c'est pareil, hein, on a vu dès le début du match, on a vu une équipe de Nouvelle-Zélande qui tenait très bien le ballon, mais qui a fait des fautes extrêmement cons. Ils ont été, après, ils se sont retrouvés du coup à se mettre en danger, à être bien contrés par le physico-physique des Sud-Africains, qui eux n'ont pas pu déployer leur jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, de passe au pied, de rentre dedans pour resserrer l'équipe, puis passe au pied. Ah, c'est pareil aussi, l'Afrique du Sud, pourtant, c'est pas une équipe en carton, ils ont eu du mal avec pas mal de mal en touche, problème que je reciterai encore une fois pour la finale. Après, ils ont été sérieux et ils ont pris l'eau, je crois, sur le Ils ont pris l'eau sur le début de seconde mi-temps. Bon, mais écoutez, maintenant, on va passer à la petite finale. Dans le match en carton, qui ne sert à rien, mais bon, c'est pour dire qu'on est en troisième, en fait, ça sert à rien, quoi. Donc, victoire sud-africaine sur l'Argentine, 24 à 13. Donc, on a eu deux sons de cloche, donc une équipe d'Afrique du Sud avec les titulaires, avec pour bien fêter le départ à retraite de certains joueurs de talent, comme par exemple Victor Matfield. On a vu des joueurs argentins, beaucoup plus jeunes même. Ça s'est vu sur le match, hein, le score est finalement assez léger. Ils auraient pu encaisser un ou deux essais de plus, l'Argentine ne serait pas démérité, surtout que le dernier essai est arrivé vraiment en fin de rencontre pour l'Argentine. J'ai noté Afrique du... alors. Ouais, pareil, l'Argentine a pris un carton assez rapidement, ce qui a un petit peu faussé le match, sachant qu'ils étaient un petit peu plus jeunes. Ouais, la deuxième mi-temps finalement a été aussi beaucoup plus serrée. Les Argentins ont su, avec l'import de l'import des titulaires qui étaient sur le banc, ils ont su relever un petit peu le niveau. C'était un petit peu trop tard, de toute façon. La mainmise sud-africaine sur le match étant bien trop importante. J'ai noté aussi, voilà, gros manque de finition. Il y a eu pas mal de fautes et une grosse foire en n'importe quoi aussi. Et blague aussi, Dominguez, Diego Dominguez, roi de la merguez, et Lionel Boxis, roi de la saucisse. Voilà. Quand on ne sait pas quoi marquer, on ferait mieux de fermer sa gueule. Bref. Et donc maintenant, on va passer à la finale. Alors, première mi-temps que j'ai trouvé finalement assez brouillon. La Nouvelle-Zélande a eu de la chance. Fait de la chance. Je pense que la Nouvelle-Zélande, de toute façon, aurait gagné ce match, quoi qu'il se passe. Mais, quoi qu'il se passe, et donc ça fait un peu trop. C'est notre émission que je fais aussi. Avec mon bon, bref. Bon, pas grave. La Nouvelle-Zélande a bien profité des sorties de Douglas, le second de ligne, et de Guito sur blessure, qui ont quand même pas mal handicapé l'équipe, surtout que Douglas, j'ai trouvé bon depuis le début de la Coupe du Monde. C'est surtout ce que je retiendrai du match, le vrai niveau qu'on a vu entre les deux équipes, c'est le même niveau qu'on voit entre les deux demi de mêlée, à savoir Guenya pour l'Australie. Et Aaron Smith pour la Nouvelle-Zélande, qui a été mais vraiment impérial. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs, sinon même le meilleur demi de mêlée de cette Coupe du Monde. Et toutes les équipes, il est vraiment exceptionnel, ce joueur. Après, moi, j'ai aussi noté que c'était arbitré le cul, quoi. Faut dire la vérité, Kepou aurait mérité vraiment un carton rouge, je pense, parce qu'il avait fait deux fautes vraiment con, donc il aurait mérité au moins un carton jaune. Il avait vraiment un contrat sur Carter. C'était très. Après, ouais, c'était. Il y avait pas mal de contacts, pas sifflés, des fautes un peu couillons, genre Mako, comme d'habitude, qui traîne au-delà. Beaucoup, ouais, pas mal de ruck où ça se passait au-delà. L'arbitre, genre, comme s'il mettait la main devant les yeux, et puis, ah, il se passait rien. Mais surtout, voilà, là où l'Australie, surtout, a pêché, encore une fois, c'est sur la même c'est la même mise de la Nouvelle-Zélande sur la touche, qui était encore une fois impériale. Où ils ont perdu pas mal de ballons. Pareil, Paul, le joueur qui partait à la retraite. Dan Carter a fait un bon match, il faut dire la vérité. Il a fait, d'après moi, des fautes un peu cons quand la Nouvelle-Zélande menait de bien 15 points. Il a fait des fautes un peu débiles, comme pas trouver des touches sur des pénalités. Bon, on sait qu'il voulait jouer dans le camp de l'Australie pour pas se prendre de contre, mais bon, je pense qu'à un moment, vu le niveau, faut savoir sécuriser les bases, quoi. Mais je vais d'ailleurs sortir les stats de cette rencontre, parce que je les ai sous les yeux. Attention, je sors le midi olympique. Alors, on a eu mêlée gagnée par la Nouvelle-Zélande 3 sur 3. L'Australie en a perdu une, donc 4 sur 5, qu'elle a joué. Donc, plus de fautes de main, on voit du côté australien. Les touches 14 sur 14 pour la Nouvelle-Zélande. Et c'est là que l'Australie s'abaisse 7 sur 10 pour l'Australie. Les mètres gagnés, donc 513 pour la Nouvelle-Zélande, 425 pour l'Australie. Le ballon joué, ce qui fiffe aussi, 121 pour 115. Défenseur battu, là de suite ça augmente un peu plus, donc 27 à 15. Les franchissements, alors là c'est l'explosion, c'est 19 à 4. Passe 151, 139. Passe après contact, on pourrait sortir une, c'est qui est balle de match, c'est pour la Nouvelle-Zélande, la passe de Sonny B. Williams. Donc, Nouvelle-Zélande 8, Australie 2. Pénalité concédée. On est dans le score de ce qui doit se faire normalement pour de très bonnes équipes de très bon niveau. Donc 7 à 11, plaquage réussi 114, 15 manqués et 117, 27 manqués, ce qui est énorme. Ruck gagné, alors là on voit pareil la belle même mise des deux équipes, 83 et 7 perdus et 79 et 5 perdus. Turnover concédé, c'est pareil, c'est kiff kiff, 12-14. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette Coupe du Monde? Moi, je me suis vraiment régalé. On a vu des belles équipes, on a vu du jeu finalement plus intelligent que ceux qui présumaient. Je vais d'ailleurs faire un article sur mon blog très bientôt. L'équipe de France a voulu s'enfermer dans un jeu physico-physique. On a vu des équipes qui, elles, étaient physiques, mais elles qui jouaient derrière. On a vu, par exemple, les Japonais, malgré un certain déficit physique, ça s'est vu qu'avec la sortie des secondes lignes, quand même, ma fille, où l'équipe avait plus de mal à gagner du terrain physiquement, on a vu voilà, des équipes qui n'hésitaient pas à faire de la circulation de balles, comme les Gallois, les Écossais, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On a vu l'Argentine, surtout. L'Argentine, avec une très belle... très beau jeu d'ensemble. La Nouvelle-Zélande a gagné par sa supériorité des joueurs sur le terrain. On voit que techniquement, ils sont clairement supérieurs. Ils sont plus propres sur les rucks. C'est un rugby plus complet qu'ils font. Un pilier peut s'intercaler dans la ligne et faire la passe qu'il faut. Sur les bases physiques, ils sont très bons. Je parle des phases physiques, les phases, tout ce qui est phase de conquête, ils sont extrêmement bons là-dessus. On peut pas rien dire. Pour moi, c'est une équipe complète. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était l'Argentine déjà. C'est une belle équipe, je trouve, qui a énormément progressé. À voir en 2019, parce qu'ils ont des joueurs qui sont encore un petit peu jeunes, mais pas trop quand même. C'est déjà des joueurs qui devraient avoir la trentaine pour la Coupe du Monde 2019. L'Australie a aussi montré de très belles choses. Michael Checa a fait un extraordinaire travail sur cette équipe. Moi, j'ai vu des joueurs qui étaient conquérants. Après, certains joueurs manquaient un petit peu d'expérience. Ça s'est vu, des joueurs comme Falao, tout ça, c'était un petit peu jeune, un petit peu vert. Ça manquait de quelque chose sur quoi se reposer. Quoi. L'Afrique du Sud aussi s'est bien remontée. Faut pas se cacher, la défaite contre le Japon a été un vrai coup de massue pour cette équipe, qui a su se retrouver sur des fondamentaux un petit peu trop gros. C'est finalement la seule équipe aussi qui a bien chahuté la Nouvelle-Zélande. Je pense que l'Afrique du Sud a beaucoup péché dans son jeu de trois quarts. C'était un petit peu trop stéréotypé, ça s'est vu. Et surtout que un joueur comme Willy Leroux n'a pas brillé tant qu'il fallait. Du coup, c'est très compliqué derrière de pouvoir gagner du terrain intelligemment. Là où par contre les Écossais, sur leur jeu de 3 quarts, ont été très bons avec des joueurs comme Willy Leroux. Bon, la France, j'en reparlerai pas, j'ai déjà parlé, le jeu physico-physique était un peu bête. On voit toujours la supériorité du Sud sur le Nord. Certaines équipes sont quand même en bonne voie. L'Irlande a quand même une bonne base pour travailler, mais les joueurs sont assez vieillissants, je trouve. Le pays de Galles qui était très mal barré avec pas mal de blessés, c'est finalement extrêmement bien démerdé. Le Japon aussi n'a pas été bien récompensé de sa Coupe du Monde. On a vu un jeu très intelligent. J'ai vu des molles portées, des ballons portés par les Japonais. Même la Nouvelle-Zélande a du mal à faire de ce type de ballons portés. Pourtant, c'est une équipe de bien meilleur niveau. On voit quand même que le rugby a bien progressé pour les petites nations. Je me suis bien régalé en regardant tout ce qui est Géorgie. Le réveil Samoa contre l'Écosse a été... Moi, je me suis bien régalé devant ce match. Bon, même si j'ai beaucoup gueulé contre l'arbitrage, voilà, encore une fois. Mais j'ai trouvé, voilà, par exemple, pour en revenir, j'ai trouvé les arbitres français très bons sur cette Coupe du Monde. Je pense que les consignes étaient bien passées. C'était des arbitres... qui laissait faire le jeu, mais qui était en même temps très responsabilisé. Là où j'ai vu le moins d'erreurs d'arbitrage, c'était avec les arbitres français. Je pense que il faut retenir ça pour le top 14. On y viendra après. Je pense que le problème du top 14, ce n'est pas forcément l'arbitrage, c'est peut-être un problème autre. Un problème qu'il faudra régler rapidement. Donc voilà. Moi, franchement, je suis content de cette Coupe du Monde. J'espère aller au Japon en 2019, voir des matchs de Coupe du Monde. Peut-être. Alors, c'est pas forcément d'aller au Japon qui m'embête, c'est plus le prix des places qui est excessivement prohibitif. On est loin d'un sport qui se veut valeur du rugby et proximité entre les gens, avec des places à 400 euros pour des matchs un peu à la con-con, je trouve que ça fait cher, quoi. Mais vraiment. Et écoutez, pour faire la transition, je vais parler de la nouvelle rubrique qui s'appelle La Déclaracon. Alors, La Déclaracon, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un extrait d'interview, un article. Donc, c'est une déclaration extrêmement con. Et Dieu sait qu'il y en a. Et là, avec la défaite forcément de l'équipe de France, la gifle reçue contre la Nouvelle-Zélande, les langues se sont déliées. Tout le monde avait forcément la solution pendant 4 ans, voire même plus, hein, certains diront. Tout le monde avait la solution, mais personne n'avait osé ouvrir sa gueule. Donc, on a vu Bernard Laporte être en campagne pour la FFR. On a vu tous les gens qui, d'ailleurs, pas mal de gens qui font partie de près ou de loin, du staff de la FFR ouvrir leur gueule, alors que bon, ils en font partie, ils font bien marrer. Alors, voilà, du coup, il y avait pas mal de déclarations. J'en aurais pu en avoir une chier de déclarations, mais j'ai décidé de prendre ce cher Paul Gauze, président de la LNR, donc des clubs professionnels du rugby français, qui déclare pour moi, c'est un casus belli. Les contrats sont complètement irréalistes, a estimé son président. Donc, il nous parle des contrats fédéraux, ce qui se passe par exemple en Angleterre, ou tout ça, ou dans d'autres pays. Les joueurs en fait sont payés par principalement payés par la fédération, donc fédération anglaise, la FRU, je crois, je sais plus, très bien les noms en tête. Ces joueurs après participent au championnat. Donc, on parle donc de joueurs qui seraient payés par la FFR. Paul Gauze, ça lui plaît pas. Alors, Paul Gauze dit soit il s'applique à 3-4 joueurs et ne change rien pour l'équipe de France, soit c'est à plus de joueurs, mais à ce moment-là, expliquez-moi ce que ces joueurs feront toute la saison. Ils ne joueront pas. La ligue est tout à fait prête à discuter, mais on ne peut pas mettre en péril ce qui marche le mieux dans le rugby français. Le top 14, bien évidemment, il parle. Donc voilà, c'est la déclaration extrêmement con. De ce président qui a laissé d'ailleurs de belles qui est bien hautain et bien mal embouché, je trouve, parce qu'il a laissé une belle ardoise alors 280 000 euros à Perpignan, 280 000 euros de devoirs à l'URSSAF, donc tout ce qui est pas aide sociale mais charge sociale. Voilà. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu mal embouché le monsieur. Surtout de dire que les joueurs non licenciés par la FFR ne joueraient pas dans leur club. C'est un petit peu du foutage de gueule. On sait qu'il veut défendre son pain, mais au bout d'un moment, il faut se calmer, quoi. Voilà. Bon, la déclaracon, et ben voilà, ça reviendra tous les numéros, je pense, parce que vu le nombre de conneries qui se dit sur le rugby, enfin dans le rugby même plutôt, autant vous dire que des conneries, il y en a. Un faïs, comme on dit le jargon. Écoutez, maintenant on va passer au top 14. On va passer au championnat, même mieux que le top 14, on va passer au championnat régulier.
Destrocher, ça veut dire en ratatiner, ça veut dire en réduire à néant l'adversaire, ça veut dire le terrasser, si on essaye de parler français, ça veut dire bon, l'anéantir, quoi, et tout ça, en termes toulonnais, c'est destrocher.
Comme je l'avais dit dans les numéros précédents, le championnat domestique français, anglais, tout ça, enfin, toutes les équipes qui étaient concernées par la Coupe du Monde ont eu une petite pause, donc avant celle-ci, enfin une pause pendant celle-ci. Donc la quatrième journée que je vais vous raconter là, la quatrième journée de Pro D2 qui vient un petit peu plus tard, c'était la toute dernière journée avant la Coupe du Monde. Et la cinquième journée, elle a repris pour les demi-finales, je crois, ou quart de finale. Bon. C'est pas trop grave. Donc quatrième journée, donc victoire de Castres sur Oyonnax 35 à 26. Toulon a disposé de La Rochelle avec le bonus offensif pour Toulon, 45 à 24. Le Racing 92 a gagné contre Grenoble 23 à 14. Montpellier 44, Paris 20. Clermont et Bordeaux ne se sont pas départagés 26-26. Brive a gagné contre Agen 18-12. Ah d'ailleurs, tout à l'heure, bonus offensif aussi pour Montpellier. Pau a gagné contre Toulouse 9 à 6, donc bonus défensif pour Toulouse. Après, donc cinquième journée, donc celle qui s'était déroulée juste avant la fin de la Coupe du Monde. Clermont a gagné avec le bonus offensif contre Pau, 35-10. Oyonnax a perdu à la maison contre le Racing Métro, 9-18. Alors après, Grenoble a perdu lui aussi à la maison, 19-30 contre Montpellier. Agen a fait de même, 16-31 contre Bordeaux-Bègles. Paris a gagné contre Castres, 22-9. Toulouse, 39. La Rochelle, 22. Et Brive, dans la douleur, a gagné contre Toulon, 29-26. Donc, bonus défensif pour Toulon. Sixième journée, le derby parisien a été remporté par le Racing 92. Donc, 27-18 contre Paris, le Stade français. Castres a perdu à la maison, 23-31 contre Grenoble. Pau a aussi perdu à la maison, mais avec bonus défensif contre Brive, 13-18. Toulon, bonus offensif et branlé, 61-3 contre Oyonnax. Bordeaux-Bègles, 12, Toulouse 10, bonus défensif. Montpellier-Clermont, 24-19, bonus défensif pour Clermont, bon match d'ailleurs. Et La Rochelle, bonus offensif contre Agen, 23-16. Septième journée, Oyonnax avec bonus défensif, 42 contre Pau, 23. Agen, 28, Paris, 23, bonus défensif. Bordeaux a disposé de La Rochelle, 21-16, bonus défensif pour La Rochelle. Le Racing a gagné contre Brive, 17-13, bonus défensif pour Brive. Montpellier a perdu à la maison contre Toulouse, très bon match, très bon match, si vous pouvez voir des résumés, regardez-le celui-là, 25-33. Clermont a mis de pilule à Castres, 42-13, et Grenoble a battu Toulon, bonus défensif pour Clermont, et Grenoble a gagné à la maison, bon, c'est pareil, regardez le résumé, il y a eu de très beaux essais aussi, 33-29 contre Toulon, bonus défensif pour Toulon. Alors, le classement à la fin de cette 7ème journée, donc on a Clermont premier avec 28 points sur 7 matchs joués, 5 matchs gagnés. C'est ça, 5 matchs joués, ouais. Le Racing a gagné plus de matchs, 6 sur 7, mais il y a moins de bonus, du coup ça se voit sur le score, 24 points. Que des matchs plus pénibles aussi pour le Racing, ça se voit sur les scores, c'est pas des gros matchs. Hein. Toulouse est en tête avec et en troisième avec 22 points. Montpellier, 22 points aussi. 5 matchs gagnés pour ces deux équipes. Grenoble, 5e avec 19 points. Grenoble, 6e, 18 points. Brive, 18 points, 7e. Toulon, 8e, 17 points. La Rochelle, à la suite de sa dégringole, 11 points. Castres, 10 points à 10e. Oyonnax, 11e, 10 points. Paris, champion de l'année dernière quand même, 9 points, 12e, et les deux relégués pour l'instant, Pau, 9 points, et Agen, 8 points. 14, voilà. Le goal average n'est pas foufou pour l'instant, je trouve. Il y a 2 moins 70 quand même, pour Pau et pour Oyonnax, pas jojo. Il n'y a que Clermont qui a un sacré goal average, donc plus 123 quand même. Donc ça veut dire qu'ils ont les bonus offensifs qu'ils ont mis n'étaient pas volés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce début de saison? Parce qu'on en est déjà presque au tiers. Enfin, au quart de la saison. Pour l'instant, ça a du mal à se décanter. C'est un peu tout le monde bat tout le monde en fait. On sent que ça peut vite virer d'un week-end à l'autre. Moi je sens quand même que des équipes comme Oyonnax sont un petit peu mal parties pour l'instant. Pas mal de matchs perdus à la maison, perdus plus que bêtement des fois, en plus contre des grosses équipes. C'est compliqué. Pau, c'est bien compliqué la tâche en perdant contre Brive alors qu'ils avaient arrivé à battre des équipes comme Toulouse et Montpellier, si ma mémoire est bonne. Agen est un petit peu limite aussi, ouais, vraiment plus que limite même je trouve d'ailleurs. Sur ce début de saison, ça va être compliqué. On va voir que là, normalement, les interventions doivent revenir d'ici la 8ème journée, voire 9ème journée, selon les temps de récupération qu'on leur donnera. On verra ce que ça change. Par exemple, on voit une équipe comme Toulon qui est au milieu de tableau. Quand on voit le match qu'ils font contre Grenoble, pourtant, ça joue. C'est bizarre d'aller voir à ce niveau. Montpellier aussi, c'est un petit peu compliqué la tâche en perdant à la maison contre Toulon. Contre Toulouse, pardon. Je pense que ça va être des points qui vont être difficilement récupérables, ceux-là. À part faire un gros coup chez un gros, c'est pas impossible, vu le niveau cette année, mais c'est un petit peu mal parti. Et finalement, il y a le Racing qui fait des matchs peut-être certainement pénibles, mais qui est derrière Clermont. Clermont qui est un petit peu baissé en intensité là, mais l'arrivée de la Coupe d'Europe, il joue peut-être un peu là pour très bientôt, à voir. Donc maintenant on va passer à la Pro D2, donc quatrième journée. Donc Albi vainqueur de Perpignan, 23-19 bonus défensif pour Perpignan. Aix-en-Provence a disposé de Biarritz 22-11, Carcassonne, Dax 30-20, Mont-de-Marsan, Colomiers 33-20, Aurillac bonus défensif 39-14 contre Tarbes, Béziers, Narbonne 18-13, Lyon bonus défensif 44, Montauban 14, Bayonne bonus défensif 36-14 contre Bourgoin. Cinquième journée. Biarritz a perdu à la maison 16-19 contre Lyon. Bourgoin a fait de même contre Perpignan 16-20. Montauban a gagné à la maison contre Mont-de-Marsan 16-14. Carcassonne a perdu à la maison 22-32 contre Bayonne. Dax est vainqueur dans la douleur de Aix-en-Provence, donc qui ne laisse pas de points quand même. Tant mieux pour eux. 26-19. Tarbes a disposé de Béziers 19-10, Narbonne 32, Aurillac 30, première défaite aurillacoise de la saison. Et Colomiers a vaincu Albi 26-16. Sixième journée. Perpignan, Biarritz 29-18, Mont-de-Marsan, Bayonne 38-15. Albi a battu Narbonne sur le score de 26-10, bonus offensif. Rugby Provence, donc Aix-en-Provence, a battu Montauban difficilement 29-27. Lyon, bonus offensif 37-11 contre Colomiers. Contre Carcassonne, c'est la prochaine ligne. Colomiers, Dax 29-9. Tarbes, Bourgoin. Eh bien, Tarbes a perdu à la maison contre Bourgoin. Ce qui m'a très étonné pour le moment. 13-19. Pas de points en plus. Et Béziers-Aurillac, match de basket, 54-40. Pourquoi? On ne sait pas. C'est deux équipes qui jouent beaucoup, donc le score est plus ou moins logique, mais on n'a plus trop l'habitude de voir des scores à 50 points. C'est un peu bizarre. Ah non, bon, je rappelle encore une fois, vous retrouvez les scores sur le document qui va avec le podcast. Hein. Ça fait un peu école des fans, là, de la façon comme je le dis, mais c'est pas trop grave. Et septième journée, bon, ben, sauf si, à part que j'ai mal surligné, que des victoires à la maison. Bayonne-Perpignan, donc match important pour les équipes qui veulent jouer les qualifications, voire la montée. Bon, pour l'instant, c'est plus Lyon qui va gagner, qui va se peler la montée. Difficilement quand même, mais on reviendra après. Donc Bayonne-Perpignan 17-14. Biarritz, première victoire de Biarritz à force. 21-15 contre Béziers. Bon, on a parlé Béziers, c'est des hauts et des bas. Donc match aussi pareil, là c'est pour là, tout ce qui est relégation. 17-16 contre Carcassonne. Bourgoin 29, Colomiers 12. Dax 21, Narbonne 16. Mont-de-Marsan Albi 27-9. Bonus offensif pardon, pour Mont-de-Marsan. Montauban Tarbes 35-24. Aurillac-Lyon, donc match important pour savoir qui finira premier, voire où, qui jouera les phases finales. Aurillac-Lyon, donc 23-21, bonus défensif pour Lyon. Important. Donc, voici maintenant le classement à la 7ème journée. Lyon a fini par perdre un match, la dernière journée, ben, contre Aurillac. Du coup, on a Lyon qui caracole en tête, un petit peu plus difficilement quand même. Avec quand même, ben, sur cette journée, 6 victoires. Aurillac, 24 points. Bayonne, 22 points. Perpignan, 22 points. Albi, 18 points. Là, on en finit avec les clubs qui sont qualifiés pour les phases finales. Donc, le premier monte directement un top 14 et de la place 2 à 5, on joue des matchs de phase finale pour savoir qui va monter. Béziers, 17 points. Colomiers, 17 points. Mont-de-Marsan, 16 points. Narbonne, 14 points. Montauban, 14 points. Tarbes, 13 points. Dax, 13 points. Aix-en-Provence, 12 points. Bourgoin, 11 points. Et les deux relégués pour l'instant, Carcassonne, 9 points, 2 victoires. Et Biarritz, 6 points, 1 victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pareil, quand on regarde le goal average, on voit deux équipes qui jouent un peu plus que les autres, voire même trois, si j'étends à Perpignan. Lyon avec plus 87 et Aurillac avec plus 70, un goal average, donc on voit que c'est des équipes qui jouent un petit peu plus que les autres. Bayonne, finalement, joue peut-être pas tant que ça, plus de 21 points. Pour une équipe qui a quand même gagné 5 fois, je trouve que c'est un petit peu, c'est peu. Pareil pour Albi, plus 1. On voit que de temps en temps, il y a de la piquette, quoi. Et 4 matchs gagnés. Colomiers, pareil, 4 matchs gagnés, moins 3 points aussi. Donc ça joue pas. Ces matchs qui sont, voilà, les victoires doivent être un petit peu just. Et dans les équipes qui se prennent des rentrons tous les week-ends, on pourra sauter, on pourra dire Carcassonne aussi, moins 87 points, ça pique un peu quoi. Et maintenant, on va passer plus rapidement à la Ligue Celte. Donc, la Ligue Celte, c'est tout ce qui est, c'est les clubs, même pas, c'est pas les clubs anglais, je suis bête, c'est les clubs irlandais, clubs écossais et certains clubs italiens aussi, parce qu'il faut bien rigoler un peu. Donc, les Scarlets. Sont premiers avec 25 points et 6 matchs joués, 6 matchs gagnés, voilà, difficile de faire mieux. Le Connacht est second avec 24 points, le Munster 23 points, Leinster 19 points, Ulster 17 points, Glasgow Warriors 17 points, Edinburgh Rugby 17 points, les Newport Dragons 9 points, les Zèbres 9 points, les Cardiff Blues 8 points, les Ospreys 6 points, et Benetton, rugby de Trévise, 4 points. Alors, pareil, le goal average, pareil, à part pour les clubs italiens, c'est pas très beau, moins 73 et moins 83. On notera quand même que les Zèbres sont 9e, hein, pour l'instant, alors que les clubs italiens sont pas forcément les clubs les plus armés pour ce genre de compétition. Ça se tient quand même, voilà, pour l'instant, les Scarlets ont gagné tous leurs matchs, à voir s'ils font un faux pas dans la saison, le Connacht et le Munster sont encore en embuscade, le Leinster est un petit peu plus loin dans la hiérarchie, l'Ulster aussi, c'était des clubs qui jouaient le plus, à voir si le retour des internationaux favorisera ces clubs, qui en ont pas mal. Pour les deux, les clubs italiens aussi devraient profiter un petit peu du retour des internationaux, mais ça, je ne sais pas trop. Après, voilà, les Cardiff Blues, c'est un peu décevant. Pour une équipe qui a longtemps joué la Grande Coupe d'Europe, c'est un petit peu décevant. Et les Ospreys aussi, c'est pas... ça périclite un peu, quoi. Maintenant, on va passer à la... On va finir avec la première chip, le championnat anglais. Donc là, il y a eu moins de matchs joués, donc 3. Dont les Saracens ont gagné 3 sur 3 matchs, le Leinster aussi, donc c'est 13 et 12 points, Exeter 11 points, les Harlequin 9 points, Gloucester 9 points, Sale 9 points, Northampton 7 points, les Wasps 5 points, Bath 5 points, Worcester 5 points, Worcester comme certains disent, 5 points, les London Irish, 0 points. Et Newcastle, 0 points. Goal average pour l'instant. Ah ben Newcastle, moins 76 quand même, sur 3 matchs, c'est pas mal. Et les Saracens, 50 points. Et Exeter, 63 points. Ça va, ça joue. Eh ben écoutez, bon ben, cette émission touche à sa fin. Je vais vous laisser avec un petit extrait audio très intelligent. Qui est de Thibaut de Saint-Maurice, dans une émission qui s'appelle Le philosophe du dimanche sur France Inter. Et le thème est De quoi le rugby est-il le nom ? Bon, c'est un petit extrait, vous verrez, de 4-5 minutes. C'est très philosophique, donc, comme l'indique son nom. Moi j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous le mets là, plutôt que mettre une petite musique à la con, ça change un peu. Donc le prochain numéro sera dans la fin décembre, pour la fin de la phase aller de la Coupe d'Europe, hein, et de la Coupe d'Europe des cadets aussi, celle que les clubs français ne jouent encore moins. Ils jouent que la grosse en fait, de toute façon. On reviendra du coup sur les championnats domestiques à ce moment-là. Le numéro d'après aura lieu probablement avant la. Je me trompe. Avant le Six Nations. Voilà. Pour remettre un peu le niveau des équipes en place. Je pense que ce sera rapide aussi. Je pense pour liquider tout ce qui est championnat domestique encore. Donc j'espère que ce numéro de 15 bras, 15 jambes vous aura plu. Il n'est pas forcément un petit peu. Peut-être il y a plus de contenu, mais il n'est pas forcément plus long que les matchs, que les numéros précédents. Bon ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. C'était du coup Gandalf81, @Gandalf81 sur Twitter. Je vous laisse en compagnie d'un bel extrait audio et je vous dis et je vous souhaite d'être là au prochain numéro en espérant que la qualité continue à s'améliorer. Je fais de mon mieux mais j'essaie de m'améliorer comme je peux. Voilà. Ben écoutez, ben, je vous dis à une prochaine fois et à la revoyure comme on dit chez nous.
Socrate est mortel, les étoiles sont mortelles, donc Socrate est une étoile.
Alors la presse est noire ce matin, elle n'a plus d'espoir. La France éliminée du mondial de rugby, le 15 de France aplati par les Néo-Zélandais hier soir à Cardiff. Et si on prenait tout ça avec philosophie, Thibaut de Saint-Maurice, notre philosophe du dimanche, vous nous proposez une petite philosophie du rugby.
Oui Dorothée, hein, les soirs de victoire comme les lendemains de défaite, il faut se souvenir de ce que disait Spinoza. Voilà, il ne faut pas rire, pas pleurer, mais comprendre. Voilà, et donc c'est justement ce qu'on va essayer de faire, hein, comprendre ce qui se joue quand on joue au rugby. Alors vous serez d'accord Dorothée, le rugby c'est d'abord et avant tout un sport collectif. Alors comme le disait le grand Pierre Albaladejo, hein, le rugby c'est d'abord un jeu, J-E-U, qui interdit le jeu, J-E. Pourquoi ? Bah parce que c'est un sport collectif, donc un sport qui n'est possible que par une certaine prise en compte de ce que signifie profondément le fait de jouer ensemble. Et l'air de rien, eh bien, tout commence avec le ballon. Parce qu'au rugby, c'est le ballon qui fait exister le collectif. Le ballon, c'est un quasi-objet, un presque-objet, c'est-à-dire un objet, certes, mais tout aussi un symbole. Symbole de quoi ? Eh bien, écoutons le philosophe contemporain Michel Serres, académicien et grand fan de rugby, nous l'expliquer.
Plus il y a de passes, d'une certaine manière, plus l'équipe joue. Mais plus l'équipe joue, plus l'équipe existe. Et plus l'équipe existe, plus nous savons ce que c'est qu'un collectif humain. Et par conséquent, qu'est-ce que le ballon ? C'est le traceur de relations d'abord, et c'est l'auteur du contrat social.
Voilà le spectacle du rugby.
L'auteur hein. Du contrat
oui, mais,
social.
Mais ni plus ni moins, voilà. On peut imaginer que Rousseau ait joué au rugby, enfin à l'ancêtre du rugby. Donc le spectacle du rugby, bah, c'est d'abord le spectacle fondamental d'un collectif hein, qui apprend aux spectateurs ce que c'est donc, comme le disait Michel Serres, hein, que d'être ensemble.
Bah, c'est aussi une manière de s'affronter.
Oui, et c'est effectivement la seconde grande caractéristique du rugby. Hein, un sport de brut, mais pratiqué par des gentlemen, hein, comme on dit souvent. En fait, le rugby, c'est essentiellement un sport dialectique. Alors, dialectique, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il épuise les dimensions opposées d'une même réalité. En clair, le rugby, c'est un sport dans lequel le collectif est au service de l'affrontement, dans lequel la violence du plaquage et des regroupements cède à la fluidité des passes et du jeu sur les extérieurs, dans lequel aussi le désordre apparent reste en permanence réglé par l'ordre du jeu. Alors prenons comme exemple la mêlée. Hein, et ben les joueurs qui s'affrontent se mêlent, mais en respectant des règles strictes. Et bien cette tension dialectique, elle révèle toute la puissance pédagogique du rugby. Et là encore, on écoute Michel Serres.
Ce que j'admire le plus dans ces sports collectifs, moi, c'est l'apprentissage de la gestion de la dite violence. C'est-à-dire que je m'engage comme troisième ligne, par exemple, dans tel et tel combat, et tellement rapproché que, effectivement, c'est le choc presque permanent. Mais si, à un certain moment, je n'obéis pas à la règle, mais à la règle qui est quelquefois très compliquée, très fine, très précise, très circonstancielle, il y a coup franc et je fais perdre 3 points à l'équipe.
Alors cette question de la violence posée par Michel Serres, elle se retrouve un peu dans tous les sports, ceci dit.
Oui, c'est vrai. Hein. Toute compétition sportive, en un sens, on dit, elle euphémise la violence de l'affrontement guerrier. Mais au rugby, hein, comme aussi c'est vrai à la boxe ou aux arts martiaux, ou au football américain, pourquoi pas, eh bien, on pousse cette euphémisation hein, jusqu'à son stade ultime, parce qu'on intègre au jeu sportif la violence du corps à corps, mais pour se permettre de la canaliser et de la sublimer. Et alors à travers cette gestion spectaculaire de la violence, finalement, le rugby ne raconte ni plus ni moins que la possibilité de la civilisation d'une certaine sauvagerie. Et pour ceux qui en douteraient encore, un petit conseil de lecture. La lecture donc de la formidable petite philosophie du rugby écrite par Thierry Taon et publiée chez Milan.
C'est finalement beaucoup plus intéressant qu'on prend les rencontres une par une. On devrait parler de philo à chaque fois qu'on parle de rugby plutôt que de donner la parole aux entraîneurs et aux joueurs.
Coupe du monde de la rugby, de la philo.
Coupe du monde philosophique. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice, le philosophe du dimanche. C'est à réécouter et à podcaster sur franceinter.fr.
Ah mais on est bien rigolé.